الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دخلنا البارحة الفصل الرابع فيما يقال عند المنام. Hier, nous sommes entrés dans le chapitre numéro 4, les invocations à prononcer avant de dormir. On a vu la première dua, hadith de Hudhayfa, radiallahu anhu. Apporté par l'imam al-Bukhari, Bismika Allahumma amut wa ahya. Puis dans le hadith de Aisha, radiallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêta à dormir, il joignit ses deux mains, postillonnées à l'intérieur, et récitait par la suite Sourate al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Puis, il essuyait ce qu'il pouvait attendre de son corps, en commençant par la tête et le visage, puis la partie avant de son corps. Et il faisait en tout cela trois fois. Donc, il récitait une première fois Sourate Qul Huwallahu Ahad, puis Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, puis Qul A'udhu bi Rabbil Nas. Ensuite, il essuyait, il passait ses mains sur sa tête et son visage. Puis il refaisait cela une deuxième fois. Naam. Il ne récitait pas trois fois Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu Rabbil Falaq, Qul A'udhu Rabbil Nas, puis il passait ses mains. Non, il récitait une fois Qul Huwallahu Ahad, une fois Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, une fois Qul A'udhu bi Rabbil Nas, puis il passait ses mains sur sa tête, son visage et ce qu'il pouvait atteindre hors de son corps. Ensuite, il recommençait cela une deuxième fois, puis cela une troisième fois. Donc en tout, il récitait trois fois Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq et Sourate An-Nas. Une remarque importante à dire ici, c'est que certaines personnes ont utilisé ce hadith, pour se permettre, après les du'as, après les invocations, de s'essuyer le visage et la tête et le corps. Naam. Alors que dans ce hadith, on nous montre à quel moment c'est légiféré de faire cela. C'est lorsque tu vas pour te coucher et que tu mets en pratique cette sunna. Tu récites Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, et avant cela tu as postillonné dans tes mains et tu passes tes mains sur ton visage, ta tête et le reste de ce que tu peux atteindre de ton corps. À ce moment-là, précisément. Par contre, ceux qui font des invocations, ceux qui invoquent Allah Azza wa Jal à d'autres moments, naam, ils n'ont pas à postillonner dans leurs mains, puis s'essuyer le visage, la tête et le corps. Ceci est une erreur. Wadah. Nous faisons comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour la plupart de ceux qui font cela, ils font cela par ignorance et suivi aveugle. Ils ont vu des gens s'essuyer le visage et la tête après avoir fait des du'as, alors ils ont fait pareil. Ou depuis petit, ils ont vu des gens faire cela, alors ils ont fait pareil. Al-Muslim, le musulman, ne suit pas aveuglément. Lorsqu'il veut se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, il apprend comment a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son exemple, son bien-aimé, son messager et prophète, puis il fait la même chose. Fahada tanbih. Le الحديث suivant, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة فلما كان في الليلة الثالثة قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وكانوا أحرص شيء على الخير فقال إذا ويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك أو ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان خرجه البخاري أي تعليقا ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا ذكر الحديث مختصرا فإلا هو أطول من ذلك donc selon أبو هريرة radiallahu anhu, une personne lui est venue, ou bien Abu Huraira rapporte une nuit après l'autre, que quelqu'un vint se servir à pleine main des denrées de l'aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui en avait confié la garde. La troisième nuit, Abu Huraira dit, je vais assurément t'emmener chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'homme répliqua, laisse-moi et je t'enseignerai des paroles qu'Allah te rendra profitables. Les compagnons accordaient une attention toute particulière à la bonne action. L'homme continua, lorsque tu te mets au lit et récites le verset du Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, jusqu'à ce que tu le finisses. Tu ne cesseras alors de bénéficier d'une protection de la part d'Allah et aucun démon ne t'approchera jusqu'au matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam confia à Allah, il t'a dit vrai, bien qu'il soit un fief menteur. C'était un démon. Ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce hadith de manière résumée. Donc, comme on comprend du hadith, Abu Huraira avait la garde des denrées de l'aumône, na'am, afin que personne ne puisse se servir. Il nous dit que durant la nuit, une personne lui est venue et a volé de l'aumône de sadaqa, a volé de la sadaqa, des aumônes. Il nous dit « Yahthou mina sadaq » c'est-à-dire qu'il a fait un s'il a pris, a rempli ses mains de cela. Il a fait cela la première nuit. Abu Huraira, radiallahu anhu, l'a attrapé. Il l'a attrapé et il lui a dit « Je vais t'emmener au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Alors cet homme lui a dit « Laisse-moi, j'ai des enfants, j'ai une famille. » Et il lui a expliqué qu'il était pauvre. Alors Abu Huraira a eu pitié de lui et l'a laissé partir. Puis Abu Huraira a raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Il reviendra. » La seconde nuit, Abu Huraira était tout particulièrement sur ses gardes. Et de par la science qu'il avait de la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en effet, cette personne est revenue. Abu Huraira l'a attrapée à nouveau. Elle lui a dit, laisse-moi partir, j'ai une famille, j'ai des enfants. Abu Huraira a eu à nouveau pitié de lui et l'a laissé partir. La troisième nuit, donc il est parti voir avant cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit, il reviendra. La troisième nuit, il est revenu. Abu Huraira l'a attrapé et lui a dit « Cette fois-ci, je t'emmènerai chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je ne te laisserai pas partir. » Alors il lui a dit Donc celui qu'Abu Huraira avait attrapé. Da'ni wa'allimk kalimatin yanfa'uka Allah bihi. Laisse-moi partir et je t'enseignerai des paroles par lesquelles Allah t'accordera du bien. Wa kanu ahrasa shay'in 'ala al-khayr. As-sahaba avaient cette particularité d'avoir une grande motivation dans la connaissance, pour obtenir la connaissance du bien et pour mettre en pratique le bien. Alors Abu Huraira a pris du recul pour écouter ce que cette personne avait à dire. Puis il lui a dit: Idha awaita ila firashik. Lorsque tu te mets au lit, récite le verset du Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Hatta takhtimaha, jusqu'à la fin. Wa huwa al-aliyul azim. Puis il lui a dit: fa innahu lan yazala 'alayka min Allah hafiz. Tu ne cesseras d'être sous la protection d'Allah. Tu ne cesseras d'être sous la protection d'Allah. Wa la qarabuka shaytan hatta tusbih. Et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. Alors Abu Huraira est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a raconté ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: Sadaqak ay fi hadi. Le prophète sallam lui a dit: il t'a dit vrai. C'est-à-dire dans cela. Cette information, il t'a dit vrai. Celui qui récite Ayatul Kursi avant de dormir sera sous la protection d'Allah et aucun shaytan ne pourra l'approcher jusqu'au matin. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wa huwa kadhub. Ay kathirul kadhib. Min sifatil mulazima lah al kadhib. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: bien qu'il soit un grand menteur. Quand quelqu'un ment, tu dis kadhib. Kadhaba fulan. J'ai un tel à mentir. S'il ment beaucoup, tu dis que c'est un kadhab. Naam. Et si c'est une partie intégrante de sa personne, naam, c'est son habitude, à ce moment-là, on dit de lui kadhoub. Ça a une grande intensité dans la mauvaise caractéristique ici. On dit également dajjal. Tous ces mots montrent que la personne ment beaucoup. On tire de ce hadith que parmi les invocations à dire avant de dormir, il y a la récitation de certains versets du Coran. Parmi ces versets, Ayatul Kursi. Wa hiya a'zamu ayatin fi kitabillah, kama fi hadith Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Comme dans le hadith. Donc c'est le plus grand verset du Coran dans la considération, dans la valeur. Et tout le Coran est azim, c'est Ayatul Kursi. Donc avant de dormir, tu récites Ayatul Kursi. Ici, on voit que la meilleure chose qui préserve la personne dans Zikrullah, c'est At-Tawhid. Car Ayatul Kursi a pris cette part d'entre les différents versets du Coran, de par ce qui est cité. Et dans Ayatul Kursi, on nous cite Kalimatul Tawhid. Fi hadhihi al-ayati al-azima, dhakara Allah subhanahu wa ta'ala haqqahu 'ala al-'ibad. Wa asdaraha bi kalimatil tawhid, Allah la ilaha illahu. Thumma atba'aha bil barahin al-wadhihah wal-hujaj القاطعة على أنه وحده المستحق للعبادة. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous cite qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté lui. Et tout ce qui vient ensuite n'est que preuve pour ce qui a été cité au début. Tout ce qui est cité dans le verset entre dans les preuves qu'Allah est le seul à mériter entièrement l'adoration. Le fait qu'il soit Al-Hayy, le vivant, Celui qui n'a pas été précédé par la mort et qui ne sera pas attrapé par la mort. Celui qui n'a aucun défaut dans sa vie. Na'am. C'est une preuve que Allah Azza wa Jalla est le seul à mériter l'adoration, car autre que lui est soit mort, donc ne mérite pas l'adoration, soit est vivant, mais a des manquements, ou bien on va dire des imperfections dans sa vie, et il est voué à la mort. Donc comment est-ce que tu pourrais adorer une chose qui était morte, lui qui est vivante, avec des déficiences, et qui sera rattrapé par la mort, pour être ensuite ressuscité? Donc le seul qui mérite l'adoration est Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qul mithla dhalik bi baqiyati al-hujaj. À la fin de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé Abu Hurayra qu'il s'agissait d'un shaytan. Donc de cela on tire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné la capacité aux shayatin de prendre l'apparence humaine. Allah Azza wa Jal a donné la capacité à certains shayatins de prendre l'apparence humaine. Et cela a été cité même dans d'autres hadiths. Même dans d'autres hadiths. Un sahabi, une fois a vu un shaytan sous l'apparence d'un jeune homme qui est venu pour se servir d'un bien qui lui appartenait. Alors il l'a attrapé. Il l'a attrapé et il avait une patte semblable au chien. Naam. Il l'a attrapé ainsi. La'allahu Mu'adh ou Nasit. Peut-être que c'est Mu'adh ibn Jabal, j'ai oublié le nom du sahabi. Il l'a attrapé et lui a dit: Ma ant. Qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es un djinn ou un homme? Et il lui a dit: Je suis un djinn. Et je suis connu pour être un des pires parmi eux. Et il l'a tenu, il l'a maîtrisé. Naam. Et c'est un hadith qui ressemble au hadith, à ce hadith-là. C'est un hadith qui ressemble à ce hadith. Le sahabi n'a pas eu peur, il est resté ferme. Naam. Al-Shahid, tout ça pour dire que Al-Shayatin peuvent prendre différentes apparences. Il se peut qu'il ait l'apparence d'un serpent. Il se peut qu'il ait l'apparence d'un chien. Il se peut qu'il soit mélangé de plusieurs parties, qu'il soit fait de plusieurs parties d'animal. Ici, une remarque importante. Ba'dun nas min ahli al-bid'ah istadallu bihadha al-hadith على مشروعية أخذ العلم عن كل أحد. نعم. أخذ الدين عن كل أحد. Certaines personnes parmi les gens de l'innovation ont utilisé ce hadith pour dire et argumenter que nous avons le droit de prendre la science de n'importe qui. On a le droit de prendre la science de n'importe qui et d'aller chez n'importe qui pour prendre la science. D'accord ? Où est leur preuve dans le hadith? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé dans le hadith à votre avis? Naam. À la fin, lorsque le prophète sallam a dit sadaqak, il a dit vrai, wa huwa kadhib. Sadaqak wa huwa kadhib. Donc ils ont dit Abu Hurayra a pris la science du shaytan. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hadi shubha. Ça c'est une ambiguïté. Hein? Ça c'est une ambiguïté qui est propagée par les faibles d'esprit ou Ahlul Bida' ou ceux qui n'ont pas étudié et qui ont parlé sur le hadith bi ghayri 'ilm. Hein? Fatanabbahu, lorsqu'on a un hadith, faut pas donner notre explication. Faut revenir aux ulama, qu'ont-ils dit sur le hadith? Ça suffit pas de connaître l'authenticité du hadith. Il te faut avoir le fiqh du hadith. Et ça c'est pas à notre portée à nous. On doit revenir aux ulama et aux explications des savants et regarder ce qu'ils ont dit sur le hadith. Est-ce que Shaytan, est-ce que nous, avant de dormir, nous récitons Ayat al-Kursi et nous avons pris et accepté cela du Shaytan? Abadan. Abadan. Ça, c'est une compréhension totalement erronée du hadith. Le sahabi lui-même, Abu Hurayra,
Est-ce qu'il a accepté la parole du shaitan? Non. Il est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a raconté l'histoire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Sadaqak », à ce moment-là, Abu Huraira l'a pris. Il l'a pris de qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Idhan hadhi sunna thabatat bitaqriri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette sunna, le fait de réciter Ayatul Kursi avant de dormir, est devenu effectif suite à l'acquiescement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas au dire du shaytan. Mafhoum? Donc faites attention, c'est une ambiguïté qui est répandue même par ignorance chez certains. Ils disent tu peux prendre de tout le monde, Abu Huraira a pris du shaytan. Abu Huraira a pris du shaytan. Les sahaba prennent du shaytan. Prendre يعني du shaytan. Bi'sama dhanant. Quelle mauvaise opinion as-tu des sahaba? Il se peut qu'un sahabi entende une parole d'un sahabi « wa kullu mu'udul bil ijma' » ils sont tous des gens de la droiture sans aucune divergence. L'un d'entre eux entend un hadith et il va vérifier chez un autre sahabi. Alors que sahaba ne peuvent tomber dans le... ils ne peuvent mentir. Ils ne mentent pas, radiyallahu anhum. « Kulluhum mu'udul. Kulluhum mu'udul. » Malgré cela, ils allaient voir parfois d'autres parmi les sahabes. Est-ce que tu as entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'un d'entre eux voyage pour aller chercher un hadith ou pour vérifier un hadith. Et après cela, on va dire qu'ils ont pris du shaitan une parole. Bi'sama dhannu bi ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans cela, il y a une réfutation à ceux qui disent qu'on peut prendre la science de n'importe qui. La personne qui est malade, qui a une maladie du cœur et qui doit consulter un cardiologue, afan Allah wa iyyakum, est-ce qu'elle va voir n'importe quel cardiologue, le premier venu, elle lui confie son cœur? Non, elle va questionner à son sujet, elle va faire attention. Ça c'est pour la santé. Wa dinuna a'az min sihhatina. Et notre religion est bien plus, a bien plus de valeur que notre santé. La personne qui veut acheter une voiture, elle vérifie, elle fait attention. Comment est-ce qu'elle ne ferait pas cela par la suite pour les choses de sa religion? Et lorsque les gens se sont mis à prendre, de n'importe qui dans la science, voici la situation que l'on vit. Les gens parlent sans science et appellent à toutes sortes d'idéologies erronées. Certaines personnes suivent Mada al-Mu'attila, ceux qui ont renié les dons, les attributs d'Allah Azza wa Jal. Certaines personnes ont suivi As-Sufiyya. Certaines personnes ont suivi Al-Ikhwan al-Muslimin. Certaines personnes ont suivi Al-Khawarij. Certaines personnes ont suivi Al-Murji'a. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils parlent bi-ghayri'in. Car ils suivent n'importe qui. Na'am. Alors qu'il nous faut, dans cette chose très importante, la religion, savoir de qui est-ce qu'on prend notre science. Savoir de qui est-ce que nous prenons notre science et ne pas prendre du premier venu. Il faut que la personne ait une science à donner et il faut que la personne soit ماذا مستقيمة على السنة. والشارح يقول الشيخ حفظه الله تعالى ندي ولولا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الأمر من السنة. الشيخ أدي الشارح si le prophète صلى الله عليه وسلم ne nous avait pas informé de cela, de réciter آيات الكرسي n'aurait pas fait partie de la سنة avant de dormir. نعم. Donc c'est suite au propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons accepté cela. On voit ici le mérite de Ayatul Kursi et la grande bénédiction qu'il y a quant à l'éloignement et le repoussement des shayatins. Donc le dhikr, le rappel de manière générale, repousse les shayatins et les nuisances du serviteur. Et plus particulièrement le Coran, et plus particulièrement le verset du Kursi. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذوب فيه النهي عن التعامل مع الشياطين. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici que c'est un grand menteur, les savants ont tiré de cela l'interdiction de travailler avec les shayatines. Naam, l'interdiction de faire quoi que ce soit avec les shayatines. Certaines personnes font ruqya et ensuite elles disent, moi je veux faire le captage de djinn, je vais utiliser un shaytan et il va être à mon service parce que c'est un shaytan qui est gentil et il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Naam. On n'a pas connu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des sahabes. Ces gens-là jouent avec la raison des autres. D'autres personnes vont voir les, ce qu'ils appellent le fqih, d'autres disent le marabout, d'autres disent les voyants, les devins, et tout ce que vous voulez, ils ont tous le même hukm chez Allah tabaraka wa ta'ala. Et ces gens-là, ils travaillent avec les shayatines. Ils travaillent avec les shayatines. Mais ils disent, eux, ils nous aident à faire le bien. Nous, on ne fait pas le mal. Son amal nafsu shar, son action en elle-même, elle est mauvaise. Donc tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit avec Eshayati. Tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit avec Eshayati. Mais ces gens-là jouent avec la raison du fils de Adam. Parmi ceux qui ont une faible raison. Allah musta'an. Donc avant de dormir, tu récites Ayatul Kursi. Le hadith suivant. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وقال علي رضي الله عنه ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة البقرة. رواه الدارمي وغيره بإسناد رجاله ثقات. Le hadith suivant, le hadith de Abu Mas'ud radiallahu anhu. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite les deux derniers versets de sourate al-Baqarah durant la nuit, il trouvera une protection suffisante. Littéralement, elles lui seront suffisantes. Elles lui seront suffisantes. Les deux derniers versets de Sourate al-Baqarah, c'est-à-dire Amana ar-Rasulu bima unzila ilay min rabbihi wal mu'minu. Et le second, ou bien le dernier, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, jusqu'à la fin de la sourate. Donc à la dernière page de Sourate al-Baqarah. Celui qui fait cela, qu'aura-t-il à gagner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kafata, elles lui seront suffisantes. Ikhtalafa ahlul ilm fi sharhi akhir al-hadith. Les gens de science ont divergé sur le sens de Kafata, elles lui seront suffisantes. Certains ont dit تكفيه من قيام الليل أو من بقية الأذكار. قال الشارح وهذا قول ضعيف. Donc certains ont dit elles lui seront suffisantes, c'est-à-dire pour ماذا, ça remplacera قيام الليل, le fait de se lever pour prier la nuit. D'autres ont dit seront suffisantes, c'est-à-dire pour les invocations de la nuit. C'est-à-dire en disant cela, il peut délaisser tout le reste. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى nous dit que cela est faible, cet avis est faible. Puis il dit kafata ay min kulli shar wa darar wa adiyya. Na'am, fa fiha hifz wa wiqaya min kulli li shar. Donc elles lui seront suffisantes de quoi ou contre quoi? Contre tout le mal et toute chose qui pourrait lui nuire. Il y a donc dans la récitation de ces deux derniers versets une protection pour le serviteur. Suite à cela, Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde sa protection toute la nuit. Donc on voit ici l'importance des deux derniers versets de Sourate Al-Baqarah. Et il y a des hadiths qui nous montrent leur mérite et la cause de la révélation. On voit dans le premier verset l'Iman, puis Arkan al-Iman, la foi au pilier, bien la citation des piliers de la foi. Et dans le deuxième verset, des invocations bénies au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans Sahih Muslim, le hadith Qudusi, قال الله قد فعلت. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah a dit, donc suite à ses invocations, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآية قد فعلت. Allah dit, j'ai fait cela, c'est-à-dire je vous ai accordé, j'ai exaucé vos invocations. Donc tu récites ماذا, c'est le dernier verset de Sourate Al-Baqarah. Le hadith suivant, ou plutôt le athar suivant, c'est le athar de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Vous ne l'avez pas ici? Donc, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nous dit, je ne voyais personne parmi ceux qui avaient la raison dormir avant d'avoir récité la fin de Sourate Al-Baqarah. Il y a une faiblesse dans le hadith. Al-Albani nous dit qu'il est en dessous du degré de l'authenticité et qu'il a détaillé cela et que cela a été détaillé ailleurs, ou bien qu'il n'a pas le temps ici de s'étaler sur cela. Quoi qu'il en soit, le mérite de ces deux derniers versets ont été cités dans plusieurs hadiths. Le hadith suivant, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه c'est pas la même chose que sur mon livre. Dakhilati izari, ça c'est une riwaya. Sanifati. Ici, bisanifati izari. وفي رواية أخرى بداخلة إزاري. نعم. ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. وإذا اضطجع فليقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلت فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وفي لفظ إذا استيقظ أحدكم فليقول الحمد لله الذي عفاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. هذا الحديث بتمامه في الحقيقة ليس في الصحيحين كما نبه عليه المحدث الألباني رحمه الله تعالى. واللفظ الثاني من نفس الحديث. فهذا السياق بتمام أخرجه الترمذي في سننه. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم نودي، quiconque se lève de son lit puis y revient, qu'il le frotte du bout de son pagne à trois reprises, car il ignore ce qu'il a succédé. Lorsqu'il s'allonge, qu'il dise « Par ton nom, Seigneur, je pose mon flanc et le relève. Si tu saisis mon âme,
fais-lui miséricorde. Et si tu la renvoies, préserve-la comme tu préserves tes serviteurs vertueux. Lorsque l'un de vous se réveille, qu'il dise « Louange à Allah qui a préservé mon corps, m'a rendu mon âme et m'a permis de l'évoquer. » في هذا الحديث ذكر آداب ذكر آداب من آداب النوم. Dans ce hadith, on voit une des bienséances lors du coucher, un des comportements à avoir lorsqu'on se couche et ou lorsqu'on revient dans son lit. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque l'un d'entre vous se lève de son lit, puis il revient, falyanfud, c'est-à-dire l'action, de prendre quelque chose et de faire ce geste-là sur le lit. Wadah, tu essuies le lit, mais comme si tu voulais balayer ce qu'il y avait dessus. Naam. بصنيفة إزاره أي بطرفه وحاشيته. Donc tu fais cela avec le bout de ton izar. Le izar, c'est ce que tu mets pour couvrir ta partie inférieure, ce qu'on pourrait appeler un pagne. Naam, mais pour homme. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de ce comportement. Et il nous dit de faire cela trois fois. Trois fois, ça n'est pas cité dans Sahihain, mais que dans l'un des deux recueils. Puis il nous cite la illa. Il nous cite la sagesse de cette action. En nous disant qu'on ne sait pas ce qui a pu nous succéder sur le lit. Naam, durant ton absence, il se peut qu'il y ait une nuisance. Il se peut qu'il y ait une bête. Naam. Ou que, par exemple, tes enfants soient montés sur ton lit et mangés sur ton lit, laissés par exemple des miettes ou toute chose qui pourrait te déranger. À ce moment-là, quel devra être ton comportement? Tu prends le Isa et avec le bout, tu passes à trois reprises sur le lit. Naam. Dans une version du hadith, l'intérieur de son Isa. L'intérieur de son Isa. Comme ça, s'il y a de la poussière ou autre, ça partira. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant cela, Cheikh Sharih nous dit que tu peux faire cela même avec autre chose que le Isa. Naam. Prends soin, ma'adha, de la propreté du lit et qu'il n'y a pas de nuisance. De faire cela, il dit par exemple avec une serviette ou autre chose. Avec la main directement, elle est chère, Inch'Allah. On va poser la question, Inch'Allah. Je n'ai pas à souvenir qu'il a évoqué cela. Rappelle-moi, je vais poser la question, Inch'Allah. Je vais appeler un chef ce soir. L'invocation qui est citée ici dans le hadith, c'est la première que tu prononces lorsque tu te couches. Il y a de nombreuses invocations et de nombreuses bienséances. Est-ce qu'il y a un ordre? À la base, il n'y a pas d'ordre, sauf ce qui nous est cité précisément. D'accord? Et on verra pour deux choses. La dernière parole et la première parole. Quant à la première parole, Al-Shari, Hafidhahullah Ta'ala, nous dit de commencer en disant, alors que tu t'allonges sur le côté droit, Bismika Rabbi wada'tu jambi. Donc je continue à traduire le hadith. Wa idha faja'a falyaqul. Et lorsqu'il s'allonge, qu'il dise. Donc quand est-ce que tu dis cela? Lorsque tu t'allonges. C'est donc la première invocation que tu prononceras. Bismika Rabbi. Par ton nom, Seigneur, je pose mon flanc. وضعت جنبي. الباء هنا باء الاستعانة أي أضع جنبي على فراشي مستعينا بك متوكلا عليك طالبا المدد بك
ou mink. Donc ici, lorsque tu dis, tu cites le nom d'Allah, c'est pour rechercher son aide. C'est pour rechercher l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, tu lui demandes l'aide et la facilité. Bismika Rabbi, tu cites un des noms d'Allah Azza wa Jal, qui est cité le plus grand nombre de fois. Rabbi, ça veut dire mon Seigneur. Tadkur hadha l'ism, mutawassilan bih, ila matloubik. Tu cites ce nom d'Allah tabaraka wa ta'ala en le citant comme intermédiaire pour qu'il t'accorde ce que tu demandes. وربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه على نوعين النوع الأول العام والنوع الثاني الخاص La seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs est de deux sortes. La première sorte, celle qui est générale. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a une seigneurie générale sur l'ensemble de serviteurs comme étant le seul créateur. Le seul maître absolu, le seul créateur, le seul gérant, celui qui dirige toutes nos affaires, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Ceci concerne toutes ces créatures. Ceci concerne l'ensemble des créatures. وَرُبُوبِيَّةٌ خَاصَّةٌ هِيَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْهِدَايَةِ وَالتَّوْفِيقِ وَالسَّدَادِ وَالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ أي يربيهم على الخير يربيهم على الإيمان الصحيح وعلى الاستقامة ويحفظهم بحفظه الربوبية الخاصة c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal éduque tout particulièrement certaines personnes parmi ses serviteurs c'est-à-dire qu'il les guide à l'islam leur accorde la foi les préserve نعم Il les aide à observer la droiture. وَضَعْتُ جَنْبِي Donc tu poses ton flanc et en même temps tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala. Dans d'autres textes on verra عَلَى الْجَانِبَ الْأَيْمَن Sur ton côté droit, sur ton flanc droit. هَذِهِ هِيَ سُنَّة هَذِهِ هِيَ سُنَّة Le fait de s'allonger sur le côté droit. Est-ce que cela veut dire que durant tout ton sommeil, du début à la fin, que tu devras rester sur le côté droit pour avoir appliqué la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Cela n'est pas le sens du hadith. Mais tu commences sur le flanc droit. Si par la suite tu restes sur le flanc droit, فَهَذَا أَتَمْ وَأَحْسَنْ Si tu restes sur le flanc droit, alors ce sera meilleur. Naam. Mais, sache que pour avoir mis en pratique la sunna, il ne t'est pas conditionné de rester tout au long de ton sommeil, à partir du moment où tu t'allonges, jusqu'au moment où tu te réveilles, sur le côté droit. D'accord ? Et sache qu'il n'y a pas de mal, religieusement parlant, à te mettre sur le côté gauche ou sur le dos. D'accord ? Par contre, se mettre sur le ventre, Shir dit que ça n'est pas une bonne chose et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Ça n'est pas une bonne chose et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. La personne pourrait dire, moi j'ai l'habitude de dormir sur le côté gauche, j'ai l'habitude de me mettre sur le dos et ainsi de suite. On lui dit, Aouiz nafsak. On lui dit, habitue-toi. Après avoir su que c'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute, cela est rentré dans ton cœur. Car aimer ce qu'a aimé ton bien-aimé fait partie de l'amour de ton bien-aimé. Naam. Tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait telle chose, de telle façon, qu'il aimait faire cela de telle façon. À partir du moment où tu entends ce hadith et tu sais qu'il est authentique, toi aussi maintenant tu aimes ça. Sahih. Car aimer ce qu'aime ton bien-aimé fait partie de l'amour du bien-aimé. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ahabbu an-nas ilayna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui que nous aimons le plus. Nuhibbuhu akthar min awladina. Wa yajibu alayna nuhibbahu kadhalik. Nous l'aimons plus que nos enfants et nous avons l'obligation de l'aimer ainsi. نحبه أكثر من آبائنا ويجب علينا أن نحبه كذلك. Nous l'aimons plus que nos propres enfants et nous avons l'obligation de l'aimer ainsi. بل لا يتم الإيمان إلا بعد أن تحبه أكثر من نفسك. Et ta foi ne sera pas complète tant que tu ne l'aimeras pas plus que ta propre personne. عليه الصلاة والسلام. Et lorsque tu te rappelles la grande miséricorde qu'Allah a fait de lui pour les mondes, cet amour se développe et se multiplie. Lorsque tu sais que le meilleur des bienfaits dans lequel tu baignes au quotidien, de jour comme de nuit, l'islam, ne t'est parvenu que par sa cause. Naam. Lorsque tu sais qu'il a enduré, qu'il a patienté, qu'il a fait tout ce qui était possible pour propager l'islam et pour que cet islam te parvienne au jour d'aujourd'hui d'une manière pure, non altérée, comment est-ce que ton amour pour lui ne pourrait pas être élevé? Aussi, les gens sont aimés de par leur rang social, de par leur piété, de par même leur description physique, de par leur comportement. Ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la plus grande part dans tout cela. Na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la lignée, kana ashrafun nas, c'était la personne la plus noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le comportement, c'était celui qui a eu le meilleur comportement. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa description physique, avait de beaux traits. Na'am. Il était fort, il n'était ni trop grand, il n'était pas petit. Wahakata. Na'am. Donc toutes ces causes de l'amour sont réunies chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi nous l'aimons car Allah nous a obligé cela et ça fait partie de ce qui incombe à chaque croyant. وعلى من تنقص نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما يستحق من الله نسأل الله تبارك وتعالى العزيز القوي الجبار الكبير المتعال أن يعامل كل من استهزى برسولنا الكريم أن يعامله بعدله وأن يجعلهم عبرة لمن بعدهم يا رب العالمين. Donc tu t'allonges sur le flanc droit et tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala en ces termes. Au moment où tu t'allonges, tu te dois de te rappeler le grand bienfait d'Allah sur ta personne. Car il t'a accordé le repos, la tranquillité, de par le sommeil que tu t'apprêtes à goûter. Puis, tu dis, Wabika arfa'uhu. Donc c'est par Allah que tu dors, mais aussi par Allah que tu te relèves. Al-amru kulluhu biyadillah. L'affaire tout entière est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala de par la science que tu as, que tu ne sors pas de l'une de ces deux situations. فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا. Si tu saisis mon âme, fais-lui miséricorde. وَإِنْ أَرْسَلْتَ فَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَدُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. Et si tu la préserves, ou bien et si tu la renvoies, préserve-la comme tu préserves tes serviteurs vertueux. Lorsque tu vas dormir, sache que tu ne sors pas de ces deux situations. Soit Allah tabaraka wa ta'ala retiendra ton âme, na'am, et tu ne te réveilleras plus si ce n'est pour sortir de ta tombe pour le jour du jugement dernier. Soit on te rend ton âme et tu te réveilles et tu pourras faire ce que tu as à faire ce jour-là. Tu ne sors pas de ces deux situations. Ben, tu invoques Allah Azza wa Jal pour chacune des deux. Pour la première éventualité, tu demandes à Allah Tabaraka wa Ta'ala de te faire miséricorde. D'écrire pour toi la miséricorde, sa miséricorde dans le cas où tu décéderais dans la nuit. Et combien sont ceux qui sont décédés dans leur sommeil? Il nous est déjà arrivé, il m'est déjà arrivé personnellement, na'am, de voir des couples décédés ensemble durant leur sommeil, subhanallah. Dans ma jeunesse, et je le suis toujours, bihamdillahi azza wa jal, un couple est décédé dans notre ville, un couple. Pas le père seul ou la mère seule, les deux, subhanallah, sans qu'ils soient malades. Al-amru biyadillah. Cela est décrété par Allah. Et tu ne peux repousser ce moment-là, ni l'avancer. Donc tu ne sais pas de quoi cette nuit sera faite. Na'am, on a pour habitude de dire on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais en vrai, même la nuit que tu t'apprêtes à passer, tu ne sais pas de quoi elle sera faite. La deuxième éventualité, c'est qu'on te redonne ton âme et on te permette de vivre encore ce jour-là. À ce moment-là, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de te préserver. Mais pas de n'importe quelle manière. Bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Qu'il te préserve à la manière qu'il a accordée à ses serviteurs pieux. Tu demandes à Allah azza wa jal qu'il t'accorde pour le jour suivant al-tawfiq, al-sadad, al-thabat, al-khayr wa al-barakat. Tu demandes à Allah azza wa jal la réussite. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala l'éloignement des péchés, le fait d'être motivé pour faire les bonnes actions, qu'il repousse de toi le mal, et ainsi de suite. Allah nous dit dans le Coran, pour nous montrer cette réalité et ces deux seules éventualités, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. La personne ne sort pas de ces deux éventualités. Na'am. Et comme cela a été cité hier, si je ne me trompe pas, dans le sommeil, il y a un des plus grands signes de la mort et un des plus grands rappels pour la mort, wallahu al-musta'an. On s'arrête sur cela, on poursuivra, inshallah ta'ala, la semaine prochaine, donc jeudi prochain. Ad-durus fi al-kalim al-tayyib ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc les cours sur les invocations seront désormais comme nous le faisions. Le jeudi soir. Et à partir de la semaine prochaine, le mercredi et le vendredi, il y aura un cours sur Fiqh al-Tahara, sur tout ce qui a un rapport avec la purification. Sur tout ce qui aura un rapport avec la purification. À partir de mercredi après le Maghrib, Inch'Allah ta'ala. Donc le mercredi et le vendredi, il y aura le cours sur al-Tahara, et le jeudi, Inch'Allah ta'ala, il y aura le cours sur Maza, les invocations. Une nasiha que j'adresse à mes chers frères bien-aimés et aux musulmans. Yani, on voit le manque de respect qu'il y a concernant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et les nouvelles caricatures qui ont été faites. Et ça, c'est une chose qui déplaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est une chose qui déplaît à tout croyant. C'est une chose qui déplaît à tout croyant. Et qu'il convient de condamner. Et ça n'est pas car il y a eu
les injustices qui ont été faites et qu'il y a eu des tueries et des actes ignobles, qu'on va rendre légitime le fait de pouvoir se moquer de la créature la plus noble, le messager envoyé à l'ensemble des mondes, sallallahu alayhi wa sallam. فَهَذَا الْفِعْلِ الشَّنِيعِ الْمَلِي بِالظُّلْمِ لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا شَكَّ أَنَّ فَاعِلَ هَذَا لَا يُفْلِحْ لَا يُفْلِحْ. Et sans aucun doute, celui qui s'adonne à ce genre d'action s'est fait du mal à lui-même. Et il n'a aucunement touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela. Et sans aucun doute, Allah tabaraka wa ta'ala préserve son message. Inna shani'aka huwa al-abtar. Alladhi yatanaqqas an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la khayra fi. Celui qui essaye de rabaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa anna lahu dhalik, le mal revient que sur sa personne. Le mal revient que sur sa propre personne. Et lorsqu'ils font leur caricature, et lorsqu'ils se moquent pour une raison ou une autre, pour un but ou un autre, en réalité, ils ne touchent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car eux se moquent de Mahomet. Eux se moquent d'une personne qu'ils ont imaginée. Naam, de par leur faible connaissance de l'islam et de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais notre prophète ne se nomme pas ainsi. Il se nomme Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, certaines personnes tentent de nuire à l'islam et aux musulmans et de salir l'image de l'islam et des musulmans. Donc je dis bien certaines personnes. En utilisant l'actualité, lorsqu'il y a un meurtre, lorsqu'il y a un mal, et ainsi de suite. Et on s'accorde tous pour dire que la tuerie qui a eu lieu est une injustice, est un mal, et une chose qui ne fait... Mais on dit également que c'est une chose qui n'appartient pas à l'islam. Qui n'appartient pas à l'islam. Ce n'est pas parce qu'il y a dans l'islam, ou parmi les adeptes de la religion, donc parmi les musulmans, des gens qui s'égarent et qui font du mal, que cela remet en cause la pureté et la perfection de l'islam. Tout comme ceux qui parlent ainsi, dans leur rang, il y a des faibles d'esprit, qui ont des actes marginaux. Mais on n'attribue pas cela à l'ensemble. De la même façon, la justice voudrait qu'on n'affilie pas ces actes commis par une personne marginalisée à l'islam, car l'islam est innocent de cela, condamne cela, et les versets du Coran et les hadiths de la sunna et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en est le parfait témoin et argument. Walillahi alhamd wal minna. Quant à nous, sachez que les malheurs que nous vivons ont pour cause nos péchés et notre éloignement devant la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et notre éloignement devant l'apprentissage de la science utile, notre éloignement devant la mise en pratique des actions pieuses. Et suite à cet éloignement, voici l'état que l'on vit. Voici que les gens se permettent d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici que les gens se permettent d'insulter les musulmans sans que rien ne leur soit dit. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nashku da'fana ila rabbina tabaraka wa ta'ala. On se plaint qu'auprès de notre Seigneur devant la faiblesse que nous vivons. Mais on n'oublie pas de rechercher les causes et de se réformer. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Il n'y a pas un mal qui vous touche
Il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que la cause soit ce que vos mains ont avancé. Donc on doit se réformer en nous-mêmes. On doit apprendre. On doit mettre en pratique. Comment est-ce que tu viens et tu dis, moi, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment est-ce que tu viens et tu dis, moi, je secours le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu ne connais pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et tu n'as pas étudié la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne mets pas en pratique les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne suis pas les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wahakala. Comment est-ce que tu peux prétendre l'aimer et tu ne le suis pas dans son chemin? Naam. Celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la véracité de ses propos ne se feront pas savoir selon l'élévation de sa voix lorsqu'il dira cela. Ça n'est pas en criant qu'on va voir que tu es véridique, mais c'est en regardant tes actions, en regardant ton comportement, qu'on va voir que tu as été véridique au moment où tu as dit Ana uhibbu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il apprend qui il était. Il apprend à le connaître. Il étudie sa vie, sa biographie. Celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il adore Allah comme il nous l'a enseigné. Celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suit sa sunna et il s'éloigne de l'innovation et des innovateurs. Naam. Celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchera à lui ressembler dans son apparence. Et ainsi de suite. Naam. Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que tu connais presque rien à son sujet? Après cela, tu veux défendre l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on parle en mal de lui ou lorsqu'on essaye de parler en mal de lui et de le rabaisser? Ça n'est pas comme ça que tu amèneras du bien à l'islam et aux musulmans, ni à ta propre personne. بل بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالصبر على الأذى. C'est en apprenant la science utile, en patientant dans les assises de science, avec la mise en pratique des actions pieuses, non, avec l'endurance et la patience. La personne qui est dans une situation où elle subit des injustices, ce qui lui est commandé dans l'islam, c'est al-ihtisab wa sabr. Ce qui lui est commandé à la personne qui est opprimée et qui a été affaiblie dans ce genre de situation, c'est d'invoquer Allah, de se diriger vers Allah sincèrement, avec sincérité, avec la véracité. Ce qui lui est demandé, c'est de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala, sincèrement. Ce qui lui est demandé, c'est d'étudier et de faire encore plus d'efforts. En temps de trouble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, ça équivaut à légir vers lui. Donc en temps de trouble, ne te laisse pas emmener dans le mal, na'am, ne tombe pas dans la fitna, mais préoccupe-toi de ce pourquoi tu as été créé. Adore Allah azza wa jalla d'un culte sincère. Et ne suis pas ceux qui te diront qu'il y a plusieurs groupes sur la vérité et que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Non. Hada kalam batil. Ça, c'est une parole fausse. Et même ceux qui l'acceptent, ne l'acceptent pas à leur encontre. Non. Ceux qui disent que nous avons le droit d'insulter un tel et un tel. Mais lorsque eux sont insultés, non, ils n'acceptent pas cela. Fahada dhulm. Ceci est une injustice évidente. Et ne suis pas le groupe des Khawarij. Ne suis pas le groupe de ceux qui sèment le désordre sur la terre. Le groupe qui sont les héritiers de ceux qui ont assassiné Uthman ibn Affan. Ceux qui ont assassiné Ali ibn Abi Talib. Et qui ont fait couler le sang à toute époque. Ne suis pas le groupe de ceux qui commettent des attentats, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans. Ne suis pas ces gens-là. Ce sont des gens qui sèment le désordre sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont des gens qu'Allah n'aime pas Ce sont des gens qui ne suivent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne représentent ni l'islam ni les musulmans. Et la personne qui veut repousser ces fausses accusations, il lui faut apprendre sa religion. Il lui faut apprendre sa religion. Car l'ignorant, en voulant défendre le groupe qui est dans le bien, et en voulant réfuter les mauvaises paroles, il se peut qu'il tombe dans un mal qui est pire. Il se peut qu'il tombe dans un mal qui est pire. Comme beaucoup de gens qui sont interviewés, ils essayent de défendre le bien et se mettent à dire tout et n'importe quoi. Non, tout et n'importe quoi, oui. Si tu n'as rien de scientifique et de bien à dire, hein, retiens ta langue. Personne ne t'oblige à parler. Personne ne t'oblige à parler. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il purifie nos rangs de ceux qui ternissent l'image de l'islam, qui sont et qui ont pour but de propager les innovations et le mal dans nos rangs. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. J'ai oublié un dernier point. Mada, beaucoup ont posé des questions sur ceux qui se font appeler l'État islamique. Beaucoup ont posé des questions sur ceux qui se font appeler l'État islamique. Est-ce qu'ils ont une part de légitimité? Non. Les savants ont répondu à cela. Les savants ont répondu à cela en disant qu'il n'y a pas, que ces gens-là ne représentent en aucun cas les musulmans et que le califat qu'ils prétendent avoir n'est qu'usurpation. Naam. Et qu'il est interdit de rejoindre ces gens-là, de penser du bien de ces gens-là, ou de les aider, que ce soit avec de l'argent ou autre chose. Et que ce sont des gens qui sèment le désordre sur la terre. Et ils ne sont pas sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette personne n'est pas khalifatul muslimin. Loin de là. Loin de là. Et il n'y a aucun texte qui nous appelle au califat. Les textes nous appellent à unifier Allah azza wa jalla dans un culte sincère. Les textes nous appellent à adorer Allah Azza wa Jalla dans un culte sincère. Est-ce que ces gens-là ont obtenu le califat comme l'a eu Abu Bakr radiallahu anhu? Il y a eu des signes cachés ou bien non explicites du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, lorsqu'il était malade, il a ordonné à Abu Bakr et n'a agréé personne en dehors d'Abu Bakr pour diriger la prière chez les musulmans. Naam, ça c'est un signe que Abu Bakr allait être le calife. Lorsqu'une femme est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose, il lui a dit reviens me voir et si tu ne me trouves pas, demande à Abu Bakr. Ceci est également un signe que le calife de l'islam allait être Abu Bakr. Naam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit boucher toutes les entrées vers la mosquée, donc des maisons donnant sur la mosquée, sauf celle de Abu Bakr. Dans cela aussi, il y avait un signe et une preuve que le prochain calife allait être Abu Bakr radiallahu anhu. Tout cela est la preuve que Abu Bakr allait être le calife. Et cette personne qui prétend être le calife n'a rien à voir avec Abu Bakr, même s'il a pris cette parole qu'Abu Bakr avait dit lorsqu'il a fait sa khutbah. La deuxième façon, on a vu dans l'histoire. Dans l'histoire, pour avoir le califat, c'est la façon dont on a reçu Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. À la mort d'Abu Bakr, radiallahu anhu, il a dit que c'est Omar qui allait être le calife des musulmans. Est-ce que cette personne qui prétend être le califat a reçu cela? Non. Cette personne n'a pas reçu cela. Et une ambiguïté qui a été propagée et qui a été réfutée, bihamdillah, par les savants de la sunna, et qu'ils disent qu'une des façons d'obtenir le califat, c'est bil ghalaba, c'est de prendre le pouvoir par la force. D'accord? C'est de prendre le pouvoir par la force. Donc si quelqu'un prend le pouvoir par la force, ça devient lui le calife. Mais volontairement ou involontairement, ils ont enlevé la fin de cette règle. Et tout le mal qu'on peut penser d'Ahlul Bida, c'est qu'ils ont fait cela volontairement. C'est que les savants disent « Ida sataba lahu al-amr » wa hadha fi fawda wa fitan yawmiyya. Ça c'est dans le cas où la situation se stabilise et qu'il l'emporte totalement. Na'am. Et cette personne-là n'est pas dans cette situation. Mais il n'a ramené que mal et trouble dans la communauté et que bain de sang dans la communauté. Allah tabaraka wa ta'ala yakfiana sharrahum. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك